Le magasin d'antiquités, tome 2, chapitre 2. Toute cette journée, quoiqu'il dût attendre M. Abel jusqu'au soir, Kit s'abstint d'aller voir sa mère, bien décidé à ne pas anticiper le moins du monde sur les plaisirs du lendemain, mais à laisser venir ce flot de délices. Car le lendemain devait être le grand jour, le jour si attendu qui ferait époque dans sa vie. Le lendemain était le terme de son premier quartier. C'était le jour où il recevrait pour la première fois la quatrième partie de ses gages annuels de 6 livres, représentée par la forte somme de 30 shillings. Le lendemain serait un jour de congé consacré à un tourbillon d'amusement et où le petit Jacob apprendrait quel goût ont les huîtres et ce que c'est que le spectacle. Une quantité de circonstances heureuses favorisait ses projets. Non seulement Monsieur et Mistress Garland lui avaient annoncé d'avance qu'il ne déduirait rien de cette forte somme pour ses frais d'équipement, mais qu'il lui remettrait la dite somme intégralement et dans sa vaste étendue. Non seulement le gentleman inconnu avait augmenté son fonds d'une somme de 5 shillings, qui était une bonne aubaine et un véritable coup de fortune. Non seulement il était survenu une foule de choses heureuses sur lesquelles personne n'eût pu compter dans ses calculs ordinaires ou même les plus ambitieux, mais encore c'était aussi le quartier de Barbe. Oui, ce même jour, le quartier de Barbe. Et Barbe avait un congé aussi bien que Kit. Et la mère de Barbe devait être de la partie. Elle devait prendre le thé avec la mère de Kit pour faire connaissance avec elle. Ce qu'il y a de certain, c'est que Kit regarda fréquemment à sa fenêtre dès le point du jour pour voir quel chemin suivaient les nuages. Ce qu'il y a de certain, c'est que Barbe se fût mise également à la sienne si elle n'eût veillé très tard à empeser et repasser de petits morceaux de mousseline, à les plisser et à les coudre sur d'autres morceaux, le tout destiné à former un magnifique ensemble de toilettes pour le lendemain. Mais tous deux furent près de bonne heure, avec un très médiocre appétit pour le déjeuner et moins encore pour le dîner. Et ils étaient dans une vive impatience quand la mère de Barbe arriva en s'extasiant sur la beauté du temps, ce qui ne l'avait pas empêché de se munir d'un grand parapluie, car c'est un meuble sans lequel les gens de cette catégorie sortent rarement au jour de fête. Et quand on sonna pour les avertir de monter l'escalier pour aller recevoir leur trimestre en or et en argent. Et puis, M. Garland, ne fut-il pas bien bon quand il dit « Christophe, voici vos gages, vous les avez bien gagnés ?» Et Mistress Garland, ne fut-elle pas excellente quand elle dit « Barbe, voici ce qui vous revient, je suis très contente de vous. » Et Kit, comme il signa son reçu d'une main ferme. Et Barbe, comme elle tremblait en signant le sien. Et comme il fut intéressant de voir Mistress Garland verser à la mère de Barbe un verre de vin, et d'entendre la mère de Barbe s'écrier « Dieu vous bénisse, madame, vous qui êtes une si bonne dame, et vous aussi, mon bon monsieur. À votre santé, Barbe, mon cher amour. » « À votre santé, monsieur Christophe !» Elle resta aussi longtemps à boire que si son verre avait été un vidre comme. Et ses gants aux mains, elle regardait la compagnie et causait gaiement. Mais c'est quand ils furent tous sur l'impériale de la diligence qu'il fallait les voir rire à cœur joie en repassant tous ses bonheurs et s'apitoyer sur les gens qui n'ont pas de jour de congé. Quant à la mère de Kit, n'aurait-on pas dit qu'elle était de bonne famille et qu'elle avait été toute sa vie une grande dame? Elle était sous les armes pour les recevoir avec tout un attirail de théières et de tasses qui eût brillé dans une boutique de porcelaine. Le petit Jacob et le Poupon étaient si parfaitement arrangés que leurs habits paraissaient comme tout neufs. Et Dieu sait cependant s'ils étaient vieux. On n'était pas assis depuis 5 minutes que la mère de Kit disait que la mère de Barbe était exactement la personne qu'elle s'était figurée. La mère de Barbe disait la même chose de la mère de Kit. La mère de Kit complimentait la mère de Barbe sur sa fille, et la mère de Barbe complimentait la mère de Kit sur son fils. Barbe elle-même était au mieux avec le petit Jacob, mais aussi jamais enfant ne sut mieux que celui-ci à courir quand on l'appelait, ni se faire comme lui des amis. « Et dire que nous sommes veuves toutes les deux, » dit la mère de Barbe. « Vrai, nous étions nés pour nous connaître. » « Je n'en doute nullement, » répondit Mistress Nubbles, « et combien je regrette que nous ne nous soyons pas connus plus tôt. » « Mais, » dit la mère de Barbe, « il est si doux que la connaissance se fasse par un fils et une fille. Cela fait plaisir complet, n'est-il pas vrai ?» La mère de Kit donna un plein assentiment à ces paroles. Toutes deux, remontant des effets aux causes, revinrent à leur mari défunt, dont elles passèrent en revue la vie, la mort, l'enterrement. Elles comparèrent leurs souvenirs et découvrirent diverses circonstances qui concordaient avec une exactitude surprenante. Par exemple, que le père de Barbe n'avait vécu que 4 ans 10 mois de plus que le père de Kit. Que l'un était mort un mercredi et l'autre un jeudi. Que tous deux étaient de bonne façon et de bonne mine, sans compter d'autres coïncidences extraordinaires. Ces souvenirs étant de nature à jeter un voile de tristesse sur la gaieté d'un jour de fête, Kit ramena la conversation à des sujets généraux, comme la beauté merveilleuse de Nell, dont il avait parlé à Barbe plus de 1000 fois déjà. Mais cette circonstance fut loin d'exciter chez les assistants l'intérêt que Kit avait supposé. Sa mère dit même, en regardant Barbe en même temps, par hasard sans doute, que Miss Nell était assurément fort jolie, mais que ce n'était qu'une enfant après tout, et qu'il y avait bien des jeunes femmes aussi jolies qu'elle. Barbe, de son côté, fit observer doucement qu'elle pensait de même et qu'elle ne pouvait s'empêcher de croire que M. Christophe fût dans l'erreur. Assertion contre laquelle Kit se récria, ne concevant pas quelle raison elle avait de douter de ce qu'il disait. La mère de Barbe dit aussi qu'on voyait souvent une jeunesse changée vers 14 ou 15 ans et après avoir été d'abord très belle, devenir tout à coup très ordinaire. Vérité qu'elle appuya d'exemples mémorables. Elle cita entre autres un maçon de grande espérance qui même avait eu pour Barbe des attentions suivies, mais Barbe n'y avait pas répondu. Et vraiment, quoiqu'elle ne voulût pas la contrarier là-dessus, elle ne pouvait pas s'empêcher de dire que c'était dommage. Kit fut de l'avis de la mère, et il le disait sincèrement, s'étonnant de voir Barbe devenir toute sérieuse depuis ce temps-là, et le regarder comme pour lui dire qu'il aurait aussi bien fait de se taire. Cependant, l'heure était arrivée de songer au spectacle pour lequel on avait fait de grands préparatifs en châles et chapeaux, sans compter un mouchoir plein d'oranges et un autre rempli de pommes, qu'ils eurent quelque peine à nouer, car ces fruits rebelles avaient une tendance à s'échapper par les coins. Enfin, tout étant prêt, ils partirent d'un bon pas. La mère de Kit tenait à la main le plus petit des enfants, qui était terriblement éveillé. Kit conduisait le petit Jacob et donnait le bras à Barbe. Ce qui faisait dire aux deux mères, qui venaient par derrière, qu'ils semblaient tous ne faire qu'une seule et même famille. Barbe rougit et s'écria « Finissez donc, maman !» Mais Kit lui dit qu'elle ne devait pas se mêler de ce que disaient ces dames. Et en vérité, elle eût aussi bien fait de ne pas y prendre garde si elle eût su combien il était loin de songer à lui faire la cour. Pauvre Barbe! Enfin, ils arrivèrent au théâtre. C'était le cirque d'Astley. À peine se trouvait-il depuis 2 minutes devant la porte fermée encore que le petit Jacob fut rudement pressé, que le poupon reçut plusieurs meurtrissures, que le parapluie de la mère de Barbe fut emporté à 20 pas et lui revint par-dessus les épaules de la foule, que Kit frappa un individu sur la tête avec le mouchoir rempli de pommes pour avoir poussé violemment sa mère et qu'il s'éleva à ce sujet une vive rumeur. Mais lorsqu'ils eurent passé le contrôle et se furent frayés un chemin, au péril de leur vie, avec leurs contremarques à la main, lorsqu'ils furent bel et bien dans la salle, assis à des places aussi bonnes que s'ils les eussent retenus d'avance, toutes les fatigues précédentes furent considérées comme un jeu, peut-être même comme une partie essentielle des plaisirs du spectacle. Mon Dieu, qu'il leur parut beau, ce théâtre d'Astley, avec ses peintures, ses dorures, ses glaces, avec la vague odeur de chevaux qui faisait pressentir les merveilles dont on allait jouir, avec le rideau qui cachait de si prodigieux mystères, la sûre de bois blanc fraîchement semée dans le cirque, la foule entrant et prenant ses places, les musiciens qui regardaient les spectateurs avec indifférence, tout en accordant leurs instruments, comme s'ils n'avaient pas besoin de voir le spectacle pour commencer et comme s'ils savaient la pièce par cœur. Quel éclat se répandit partout autour d'eux lorsque la longue et lumineuse rangée des quinquets de la rampe monta lentement. Et quel transport fébrile quand la petite sonnette retentit et que l'orchestre attaqua vivement l'ouverture avec roulement de tambour et accompagnement harmonieux de triangles. La mère de Barbe dit avec raison à la mère de Kit que la galerie était le meilleur endroit pour bien voir, et s'étonna de ce que les places n'y coûtaient pas beaucoup plus cher que celles des loges. Dans l'excès de son plaisir, Barbe ne savait si elle devait rire ou pleurer. Et le spectacle, donc, ce fut bien autre chose. Les chevaux, que le petit Jacob reconnut tout de suite pour être en vie, et les dames et les messieurs, à la réalité desquels rien ne put jamais le faire croire, parce qu'il n'avait rien vu ni entendu de sa vie qui leur ressemblât. Les pièces d'artifice qui firent fermer les yeux à Barbe. La dame abandonnée qui la fit pleurer. Le tyran qui la fit trembler. L'homme qui chanta une chanson avec la suivante de la dame et dansa au refrain, ce qui fit rire Barbe. Le poney qui se dressa sur ses jambes de derrière à l'aspect du meurtrier et ne voulut pas marcher sur ses 4 pieds avant que le coupable eût été arrêté. Le clown qui se permit des familiarités avec le militaire en bottes à l'écuyère. La dame, qui s'élança par-dessus 29 rubans, et tomba saine et sauve sur un cheval. Tout était délicieux, splendide, surprenant. Le petit Jacob applaudissait à s'en écorcher les mains. Il criait « Encore !» à la fin de chaque scène, même quand les trois actes de la pièce furent terminés. Et la mère de Barbe, dans son enthousiasme, frappa de son parapluie sur le plancher au point d'user le bout jusqu'au coton. Malgré cela, au milieu de ces tableaux magiques, les pensées de Barbe semblaient la ramener encore à ce que Kit avait dit au moment où on prenait le thé. En effet, tandis qu'il revenait du théâtre, elle demanda au jeune homme, avec un sourire tendre, si Miss Snell était aussi jolie que la dame qui avait sauté par-dessus les rubans. « Aussi jolie que celle-là » dit Kit. « Deux fois plus jolie !»« Oh, Christophe !» dit Barbe, « je suis sûre que cette dame est la plus belle créature qu'il y ait au monde !»«
Quelle bêtise » répliqua-t-il. « Elle n'est pas mal, je ne le nie pas. Mais songez comme elle était peinte et bien habillée, et quelle différence cela fait ! Tenez, vous, Barbe, vous êtes beaucoup mieux qu'elle !»«
Oh, Christophe !» murmura Barbe, en baissant les yeux.
« Oui, vous êtes mieux que ça tous les jours, votre mère aussi. »
« Pauvre Barbe !» Mais qu'est-ce que tout cela, oui, tout cela, en comparaison de la prodigalité folle de Kit, lorsqu'il entra dans une boutique d'huîtres avec autant d'aplomb que s'il y eût eu son domicile, et, sans daigner regarder le comptoir, ni l'homme qui y était assis, conduisit sa société dans un cabinet particulier, garni de rideaux rouges, d'une nappe et d'un porte-huilier complet, et qui l'ordonna à un gentleman qui avait des favoris et qui, en qualité de garçon, l'avait appelé, lui, Christophe Nobles, monsieur, d'apporter 3 douzaines de ses plus grandes huîtres et de se dépêcher. Oui, Kit dit à ce gentleman de se dépêcher. Et non seulement le gentleman répondit qu'il allait se dépêcher, mais il le fit, et revint en courant apporter les pains les plus tendres, le beurre le plus frais et les plus grandes huîtres qu'on eût jamais vues. Alors, Kit dit à ce gentleman « Un pot de bière !» juste sur le même ton. Et le gentleman, au lieu de répondre « Monsieur, est-ce à moi que vous parlez ?» se borna à dire « Pot de bière, monsieur ? Oui, monsieur. » Et étant revenu l'apporter, il le plaça dans une sébile semblable à celle que les chiens d'aveugles tiennent à leur gueule par les rues pour y recevoir un sou. Aussi, quand il sortit, la mère de Kit et la mère de Barbe déclarèrent d'une voix commune qu'elle n'avait jamais vu un jeune homme plus avenant et plus gracieux. On se mit alors à souper de bon appétit. Et voilà que Barbe, cette petite folle de Barbe, dit qu'elle ne pourrait pas manger plus de 2 huîtres. Tout ce qu'on obtint d'elle, avec des efforts incroyables, ce fut qu'elle en mangea 4. En revanche, sa mère et celle de Kit s'en acquittèrent à merveille. Elles mangèrent, rirent et s'amusèrent si bien que Kit, rien qu'à les voir, se mit à rire et manger de même façon par la force de la sympathie. Mais ce qu'il y eut de plus prodigieux dans cette nuit de fête, ce fut le petit Jacob qui absorbait les huîtres comme s'il était né et venu au monde pour cela. Il y versait le poivre et le vinaigre avec une dextérité au-dessus de son âge, et finit par bâtir une grotte sur la table avec les écailles. Il n'y eut pas jusqu'au poupon, qui, de toute la soirée, ne ferma pas l'œil, restant là paisiblement assis,
s'efforçant de fourrer dans sa bouche une grosse orange et regardant avec satisfaction la lumière du gaz. Vraiment, à le voir sur les genoux de sa mère, très occupé à contempler le gaz qui ne le faisait point sourciller et à égratigner son gentil visage avec une écaille d'huître, un cœur de fer n'eût pu s'empêcher d'être attendri et de l'aimer. En résumé, jamais il n'y eut plus charmant souper, et lorsque Kit eut demandé, pour finir, un verre de quelque chose de chaud, et proposé qu'on bût à la ronde à la santé de Monsieur et Mistress Garland, nous pouvons dire qu'il n'y avait pas dans le monde entier 6 personnes plus heureuses. Mais tout bonheur a son terme, ce qui en rend d'autant plus agréable le prochain retour. Et comme il commençait à se faire tard, on reconnut qu'il était temps de retourner au logis. Ainsi, après s'être un peu écartés de leur chemin pour conduire Barbe et sa mère jusqu'à la maison d'un ami chez qui elle devait passer la nuit, Kit et Mistress Nubbles les laissèrent à leur porte en se promettant de retourner ensemble à Finchley le lendemain matin de bonne heure et en échangeant bien des projets pour les plaisirs de la future sortie. Alors Kit prit sur son dos le petit Jacob, donna son bras à sa mère, un baiser au poupon, et tous 4 se mirent à trotter gaiement pour regagner leur domicile.